With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Post-Scriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
J'ai choisi pour traverser la mer.
Vraiment, j'étais à bout. C'était vraiment difficile, je ne pouvais plus rester. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'était de partir.
Pour aller avec un visa, c'est impossible. Alors là, j'ai traversé la mer vers l'Espagne. Et c'est une longue histoire.
Parce que je disais ça même parfois à mes copines pour blaguer. Je dis, hey, j'attends ça, quelqu'un qui va me mettre en mariage, voici, je le tue directement. Je disais ça comme ça en blaguant, mais je ne savais pas que ça allait m'arriver.
Les gens, ils disent ça va, oui, ça va. On a grandi avec cette mot. Tu cherches bien, ça ne va pas. Et c'est pour ça que je traversais la Méditerranée. Ce n'est pas pour devenir riche ou je ne sais pas quoi. Non, juste pour vivre normalement comme tout le monde, avec respect. Ici, tout, pas plus.
Lettre sonore numéro 40. Cher pays de départ.
Parfois, ils prennent un nom, comme celui du petit Aylan. Syrien, d'origine kurde de 3 ans, retrouvé mort sur une plage turque en septembre 2015. Il a ému l'Europe, et puis, rideau. Pourtant, ils sont toujours nombreux à traverser la Méditerranée dans des embarcations de misère. En 2020, près d'un millier de personnes ont encore trouvé la mort entre l'Afrique et l'Europe. Derrière ces chiffres se cachent des récits de vie rocambolesques, parfois tragiques. Pour donner une voix à ces femmes et à ces hommes qui risquent leur vie pour une vie meilleure, nous avons tendu notre micro à Fanta, 20 ans, ivoirienne fraîchement débarquée en France, et à Abdelkader, 41 ans, qui a quitté son pays, l'Algérie, il y a 14 ans maintenant. Dans ce premier volet, ils s'adressent tous deux au pays qu'ils ont quitté. Dans le prochain épisode, c'est au pays où ils ont trouvé refuge qu'ils écriront une lettre. Pour que plus jamais, à vos yeux, il ne soit que des ombres anonymes.
Coucou, c'est le matin, on s'est réveillé, et là, on essaie de déjeuner, tout et tout. Arrête, voilà. Comme d'habitude, chez nous ici, il y a toujours du bruit, hein, parce qu'il y a toujours des enfants autour qui n'écoutent jamais rien, qui font toujours ce qu'ils veulent, voilà. Ça va les enfants?
Oui, ça va.
Vous avez bien dormi?
Oui.
Très bien?
Oui.
D'accord. Là, je suis assise chez ma voisine. Voilà, vu que c'est chez elle qu'on déjeune tous les matins. Elle a ses enfants avec Amara. On se regroupe là tous ensemble pour déjeuner. Oui. Oui, ça va bébé. Là, c'est le fils de ma voisine qui me demande si ça va.
Amara, viens.
Cher pays de départ, chère Côte d'Ivoire, je t'ai quitté parce que je ne me sentais pas protégée, parce que je n'étais pas écoutée, parce que je n'étais pas considérée et parce que je n'ai jamais eu le droit de choisir ce que je voulais pour ma vie. Je m'appelle Fanta, j'ai 20 ans. Voilà. Bon, je suis partie de mon pays depuis 2019. Voilà. J'ai grandi dans une commune que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, on appelle là-bas Abobo. Je vivais avec ma mère et mon beau-père dans une cour commune. Voilà, une grande cour et puis bon, chacun a sa porte. Moi, j'ai connu une autre personne comme étant mon papa. Bon, c'est après en grandissant, c'est une tante qui m'a relâchée. Oh, toi, tu penses que l'autre là, c'était ton papa, c'est pas ton papa, toi, ton papa, il est décédé. Moi, je savais que c'était pas mon papa parce qu'il mettait la différence à chaque fois. Voilà. Peut-être parfois, si on achetait des vêtements pour certains enfants de la maison, moi, je n'en avais pas droit. Je n'étais pas la bienvenue, mais bon, il n'y avait pas le choix. C'est pourquoi j'étais là. Ma maman, elle est commerçante. Et vu que parfois, on partait au marché ensemble, c'est comme ça que j'ai rencontré Samake. Samake, c'était un porteur de bagages. Voilà, il a déjà porté notre bagage à moi et ma maman pour mettre à la place où elle les vendait. Et c'est comme ça la discussion est venue entre lui et moi. On a commencé à se fréquenter. J'avais 18 ans. Lui, Samake, il est 2 ans de plus que moi. Il était bien à chaque fois qu'on discutait et que je lui racontais mes problèmes, peut-être les soucis que j'ai à la maison. Il me conseillait, oh, laisse tomber, te fatigue pas, fais comme ça, la vie c'est comme ça. Même moi aussi, j'ai pas de famille. Et voilà, on a commencé à se fréquenter. Petit à petit, l'amour a commencé à s'installer. Lui, on est tombé amoureux.
Ton papa t'appelle. Maman, pour que cache la quête,
l'amour a trop brisé.
L'amour a trop brisé.
L'amour a trop brisé.
Ton regard me fascine comme la nuit va tomber.
Je m'appelle Abdelkader. Je suis d'origine algérienne. J'ai 40 ans. Et j'habite ici à Paris. Ça fait très longtemps. Ben, je suis algérien d'origine, j'ai grandi en Algérie, dans une province qui s'appelle Binissaf. C'est dans la frontière marocaine. J'ai grandi là-bas, j'ai passé 26 ans en Algérie. Ben, mon village, c'est un petit village, il y a un port, il y a une usine de ciment, il y a des plages, plein de plages. J'aime bien mon village, parce qu'il est petit, et dans ce village, on dit c'est la Suisse. Ben, les gens là-bas, ils vivent bien par rapport aux autres provinces, parce que les autres provinces, il n'y a pas de boulot. Il y a des provinces qui n'ont pas de mer, par exemple, il n'y a pas de port. La vie, c'est bien là-bas. Et j'ai 2 sœurs et 5 frères. On est 7. Et moi, j'étais avant le dernier. Ma mère, elle n'a jamais travaillé. Elle fait juste, comme on dit, les habits pour les femmes, chez elle, et pour la famille. Mon père, il était dans un marché. Il y a 5 frères, il n'y a que moi qui me réveille. Toujours moi, Abdel, tu viens avec moi, Abdel, tu viens avec moi. Ben, on vend les légumes, les fruits dans le marché. Et on réveille à 5h du matin, il m'a acheté une petite mobilette, et je le prends derrière moi, et je roule, et lui derrière moi. Et on vend toute la journée. J'étais gamin à l'âge de 10, 12 ans, jusqu'à 16 ans. Quand il y a l'école, j'ai fait l'école. Quand il n'y a pas l'école, par exemple, les vacances, je reste avec mon père au marché. Parce que moi, j'ai arrêté l'école de l'âge de 16 ans. Et l'école, j'ai fait 6 ans de primaire et 3 ans de collège. Et je regrette pourquoi j'ai arrêté l'école, parce que j'étais bien. Et ma histoire, comment j'ai arrêté l'école? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon cartable, j'ai pris mon tablier, j'ai jeté à la forêt. Et j'ai passé à la maison, ma mère elle m'a dit, il est où ton cartable? Je lui ai dit, il m'a volé. Et là, j'ai arrêté l'école. J'étais gamin, je ne sais rien du tout. Et je regrette. Parce que mes parents, ils ne savent pas écrire les noms. Mes parents, ils n'ont jamais fait l'école. Parce qu'il n'y a que moi qui ai arrêté l'école comme ça. Les autres tous, j'ai une sœur et un frère qui a fait le bac. Jusqu'à maintenant, si tu veux rigoler sur moi, je ne sais pas te dire l'alphabet, comment dire exact. Je peux te dire tout l'alphabet, mais ce n'est pas à sa place, comme on dit. A, B, C, D, ça c'est clair. Mais les autres, je peux dire K ou S. Tu vois comment je mélange. Et là, c'est la honte pour moi. Je ne peux pas le dire à tout le monde, ça. Pour moi, c'est la honte. J'aime pas.
Et un jour, mon beau-père, il a commencé à me dire, oui, tu grandis, tu dois commencer à te marier parce que tu vas rester là à jouer avec les petits garçons, ils vont t'enceinter pour rien, pour te laisser. Et moi, je ne veux pas de quelqu'un comme ça dans ma famille qui va commencer à coucher partout et revenir dans ma maison. Je ne veux pas ça. Donc, il faut que tu te maries. Donc, quand il a dit ça, moi, j'ai dit à maman, j'ai dit, moi, je ne suis pas prête pour me marier hein, parce que celui avec qui je veux me marier, il n'est pas encore prêt, donc on n'est pas encore prêt. Parce que pour se marier, il faut les moyens, on n'avait pas les moyens. Et donc, elle a dit, elle ne sait pas comment elle va annoncer peut-être à mon papa tout et tout. Et qu'il avait déjà décidé que je dois me marier avec Watt. Voilà. Watt, c'était un ami de la famille. Voilà, c'est avec lui, mon beau-père a décidé que je dois me marier. Il n'est pas loin de la quarantaine. Mais moi, je le détestais depuis très longtemps parce que c'est une personne qui est restée gravée dans ma tête en tant qu'une vraiment un pervers parce que il avait une boutique et quand je partais dans la boutique là on m'envoyait aller acheter quelque chose, il profitait de me toucher dans la boutique, de me toucher peut-être de toucher mes seins ou de se frotter contre moi. En ce moment, peut-être j'avais dans les 7 ans, oui. Il me faisait ça, il frottait son truc contre moi et même si j'étais petite, je savais que ce n'était pas quelque chose de normal. Et donc, quand on m'envoie à l'épicerie, je ne peux pas dire non. C'est avec la peur toujours que je vais là-bas. Mais je ne pouvais pas dire à quelqu'un parce que personne n'allait m'écouter. J'avais honte. Quand je le voyais à chaque fois, ça me revenait dans la tête. Donc, on était comme ça. Je refusais à chaque fois. Quand le méchant, là, parce que je ne veux même pas dire son nom, tellement qu'il m'énerve, quand Watt, il venait, on me disait de venir lui parler, de venir le saluer. Je n'avais pas envie de le saluer. Ou soit je viens, je le salue direct. Je rentre, je me couche, je ne veux pas lui parler. J'ai déjà expliqué à un cousin, j'ai dit je ne veux pas être avec lui et qu'il faudrait qu'on parle à mon beau-père parce que moi, je ne veux pas. Il a menacé de répudier ma maman si moi, je n'acceptais pas le mariage. En même temps, je voyais aussi souvent, ça m'a quitté et je lui ai expliqué. Il a dit non, que ce n'est pas possible, ce n'est pas gentil, ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, on était ensemble et on a commencé à avoir des rapports. Voilà, donc c'est durant leur procédure de mariage forcé, moi aussi, je suis tombée enceinte de ça m'a quitté. Quand mon beau-père il a appris que j'étais enceinte, il a dit que je déshonore la famille parce que c'est une famille où ils sont trop pratiquant tout et tout, et que je n'étais pas une bonne personne. Il m'a même traité que de diable, tout et tout, et que je voulais salir sa famille, je suis méchante. Il m'insultait de tous les noms, il m'a tapé. Et après, il m'a dit, OK, là maintenant même, tu vas te marier, et c'est une obligation, et tu vas te marier avec Watt, même avec la grossesse. Et il s'est mis en colère, tout et tout. Il m'a dit, là, c'est direct, tu pars. Pour pas que ça fasse bruit dans le quartier et dit que j'ai déshonoré ma famille, ça sera une honte pour lui. Et il faut que j'aille vivre sur Watt. C'est comme ça que je suis partie. Ils m'ont forcé, ils m'ont obligée à aller vivre avec lui. J'étais pas libre de mes mouvements, je sortais pas. Même pendant ma grossesse, il voulait faire des rapports avec moi. Je lui ai dit, mais c'est quelle manière de ne pas être humain? Pendant que c'est pas ton enfant, l'enfant même peut avoir des malformations ou des maladies. Donc, vraiment, j'aimerais que même si tu veux me faire quelque chose, attends-moi quand je vais accoucher. Donc, je disais ça pour pouvoir remuer ménage dans sa tête, pour qu'il puisse un peu au moins dire que oui, c'est vrai, et laisser tomber. Après, il ne supportait pas les pleurs de l'enfant, il ne supportait pas parce qu'il n'a pas le temps de faire ces saletés qu'il a envie de faire. Donc, c'est lui-même qui a décidé que l'enfant doit partir chez son papa. Deux mois après l'accouchement, on a appelé Samaké pour qu'il vienne chercher l'enfant. Il est venu chercher l'enfant. Il est parti avec l'enfant. Maintenant, moi, je lui ai dit qu'il parte avec l'enfant chez ma soeur. Ça m'a fait mal parce que je me dis, c'est un enfant, il n'a rien à voir avec tout ça. Et qu'il devait rester auprès de moi. Mais j'étais rassurée d'un côté parce qu'il était aussi avec son papa.
Maman, ça va? Non, Vito. Allez.
Je suis restée peut-être un à deux mois comme ça. Oui, presque deux mois dans la maison de l'autre. Et vu qu'après l'accouchement, je saignais et tout, donc il ne pouvait rien me faire. Ce jour-là, je n'ai pas supporté d'être là à côté de lui. Il m'a forcé. Il a dit que lui ne pouvait plus patienter, qu'il a fait de son mieux tout et tout. Donc, il m'a forcé. Et ça, vraiment, je n'ai pas supporté. Et ça, ça m'a fait très mal. Je suis partie dans les toilettes, je me suis enfermée là-bas. Je suis restée, j'ai réfléchi à ce que je pouvais lui faire. Et je suis restée là peut-être une heure comme ça. J'ai fait bouillir de l'eau. Je l'ai regardé parce que quand il finit tout ça, après il se recouche, il dort tranquillement comme si de rien n'était. C'est pourquoi je me suis dit, je vais bouillir de l'eau. Et c'est comme ça que je lui ai versé de l'eau bouillante là-dessus. Et il a commencé à crier. Je sais que tout le monde va commencer à sortir. Donc quand j'ai fait ça, je cours, je suis sortie directement. Mais malgré ça, il m'a suivi. Hein. Mais il ne pouvait pas courir normalement. Donc moi, j'ai commencé à courir. Je suis rentrée. Parce que c'est des cours qui sont voisines, c'est collé, c'est un quartier précaire. Donc j'ai fui, je suis rentrée chez une dame là, et je lui ai expliqué, je dis voilà, rapidement, s'il te plaît, laisse-moi ici, parce que si je sors, quelqu'un va m'attraper. Voilà, elle a dit d'accord, en attendant que ça se calme un peu, peut-être après tu pourras partir. Et je suis restée chez elle pendant la nuit. Je les entendais dehors, les gens parlent, on me cherche où je suis. Tout le monde, ça parlait dans le quartier. Et après la prière, les gens sont encore rentrés pour se coucher. Donc, elle m'a dit, je vais au marché, viens, on profite une fois. Et c'est comme ça, elle m'a donné un de ses complets pagnes que j'ai porté. J'ai attaché le foulard, tout et tout. Et puis, on est sorti, on est parti au marché. Et moi, j'ai pris direction chez ma grande sœur. Elle est venue ouvrir la porte, elle m'a dit, mais il y a quoi? Tu fais quoi ici? Je lui ai dit, ah, je fuis. Et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et je suis restée comme ça. Elle a dit, d'accord, ça va aller. On est resté un jour, deux jours comme ça. Elle m'a dit directement. Elle a dit, je sais que ça sera compliqué si tu retournes encore. Parce que ce que tu as fait à Watt, il va vouloir te rendre. Je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais partez. Partez ailleurs, où ils ne vont pas vous retrouver. C'est comme ça qu'on a décidé de nous enfuir, partir ailleurs avec notre enfant. Et nous sommes partis de la Côte d'Ivoire.
Bah écoute, wallah, mon frère Mohamed, j'y connais plein et ma famille, j'ai trois ponts. Ça veut dire 3 fois 7 ou 8, ça veut dire 24, 30 personnes. Dans ma famille hein, qui habite ici en France, déjà, je l'ai vu juste là.
Oui, l'Algérie, mon cher pays, l'Algérie. L'Algérie. Moi, je te donne mon Algérie, je te donne. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'es dans mon sang, l'Algérie.
Ben, j'ai fait 9 mois de l'école. C'est une formation pour devenir un marin pêcheur. J'ai pris mon diplôme et j'ai commencé à travailler en 99 ou fin 98. J'ai commencé à travailler. Marin pêcheur, il y a plusieurs métiers. Il y a le petit métier qui travaille pas loin de la plage, comme on dit. Tu peux pêcher comme le poulpe, le poisson cher, parce qu'il vit où il y a les rochers. Quand tu prends le filet, tu vois même en bas de la mer, 10 mètres, 15 mètres, tu vois le poisson, il brille, il monte doucement, doucement, jusqu'à le bateau. Ça, pour tes yeux, c'est bien parce que tu vas voir des poissons mélange avec plusieurs couleurs. Il y a le rouge, il y a le gris, il y a le vert. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent voir ça. Ça donne la joie, comme on dit. Ça donne quelque chose de bien. Et en plus, quand on pêche à la fin, chacun a pris une pièce pour lui. Ça, c'est le meilleur. Ah, moi, j'ai oublié les noms des poissons, je te jure, j'ai oublié. Ça fait longtemps, j'ai pas... La Méditerranée, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans, j'ai pas touché avec le doigt comme ça. Le métier marapêcheur, je l'aime bien, bien, bien. Mais pas en Algérie, ailleurs. Parce que même en Algérie, même tu travailles, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien de l'heure par jour, gagne pas beaucoup. J'ai gagné le maximum, j'ai gagné 150 euros maximum par semaine. Et le minimum, c'est 15 euros par semaine. Et j'ai dégoûté de travail de marapêcheur parce que je travaille la nuit, toujours la nuit, toujours la nuit. 40 jours maximum en mer. Tant qu'il y a le gazoil, tu ne peux pas le rentrer à l'aéroport. Et même pour les frigos, là aussi. Les frigos, ils sont grands. Il faut remplir tous les frigos avec les crevettes rouges, là. Et j'aimerais bien travailler un travail la journée à 8h du matin, tu finis à 16h, je ne sais pas, le soir. Stable. Et dernier, comment j'ai arrêté, j'ai même pas parlé avec mon frère, le chef. C'est lui qui commande. Et quand on a rentré au port, j'ai pris mes affaires à la maison et je n'ai pas retourné pour travailler marapêcheur. Et après 2 semaines, je suis venu ici en Europe.
Ah, mais c'est que ben là.
Allez-y.
Il faut vraiment les voir. Venez ici. Là, devant moi, je vous regarde bien.
En fait, le projet était d'abord de fuir, de quitter la Côte d'Ivoire. Donc, quand nous avons quitté la Côte d'Ivoire, on est parti au Mali. Mais vu qu'au Mali, Samake, ça n'allait pas trop. Lui aussi, il n'avait personne. Et donc, c'est comme ça qu'il a dit au transporteur, là, fais quelque chose pour ma famille. Et c'est comme ça qu'il a dit, d'accord, moi, je peux t'aider. Et parce que je connais, j'ai un ami qui part tout le temps en Algérie. Et il me dit que là-bas, c'est bon, que si tu travailles, tu peux avoir beaucoup d'argent. C'est comme ça, l'idée est venue. Ah, on part en Algérie. Et c'est de là, maintenant, on a commencé notre migration. On est passé par Gao. Gao, on est descendu à Tamaracet. On a fait peut-être 3 mois là-bas. Et il y a un monsieur qui lui a dit que, tu sais, ici, c'est bien, mais en Libye, encore, c'est plus mieux parce que tu vas gagner encore plus d'argent. Mais là, le même transporteur qui nous envoie en Algérie, il a donné le numéro de quelqu'un qui pouvait nous prendre de l'Algérie et nous faire rentrer doucement en Libye. Voilà, on a fait 3 jours, on est passé par le désert, tout et tout. Ils nous ont pris dans les 4x4 où on nous cachait. Comme des bagages, il y avait juste un petit espace où on pouvait respirer un peu. Du coup, pour moi qui suis asthmatique, je n'arrivais pas vraiment à bien respirer. Vu qu'on était entassé près de combien de personnes dans la voiture, avec l'enfant, tout et tout. Donc, c'était très pénible. Et mon fils, il a été très courageux. C'est pas comme des enfants qui auraient pleuré, qui auraient fait des scènes, tout et tout. Je sais pas, il comprenait un peu la situation. Donc, il m'a pas dérangé. Il rentrait dans ses 1 an, comme ça. Oui, il rentrait dans ses 1 an. Là-bas en Libye, tout a commencé à être bizarre. Les policiers nous ont attrapés, donc ils nous ont envoyés en prison. On nous a séparés. Donc j'étais avec mon fils et je ne savais pas où Samaki était. Quand tu vas en prison, les garçons, on les fait sortir pour aller travailler et après on les fait rentrer. Ils travaillaient, ils ne se plaignaient pas. Il y a un monsieur libyen là, il lui a expliqué que mais il y a ma femme et mon fils dans l'autre prison où on dit c'est prison des femmes. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour qu'on n'a qu'à se retrouver. Donc le gars lui a dit, d'accord, tu vas travailler pour moi pendant 2 semaines. Et après les 2 semaines, moi, je vais te faire sortir. Et lui, ensuite, il m'a vendu. Il y avait près de 7 hommes, 7 Nigériens, dans cette maison-là, qui vendaient de la drogue, tout et tout. On était 4 filles. Et moi, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle a dit que, ah, ici, mieux on restait en prison que parce que ici, là, c'est l'enfer sur terre même. on nous a violés, ils ont couché avec nous forcés. On n'a pas le choix. Et quand moi je suis venue, il y a un qui m'a dit, va te laver. Ils boivent, ils fument. Quand c'est comme ça, je sais qu'il n'y a pas de bonne chose qui va sortir de ça. Et j'ai vraiment peur. La dame m'a dit que ça va aller. Elle dit, c'est ton enfant contre toi, j'ai serré mon enfant contre moi. Mais ça a servi à rien en fait. Il a commencé à venir me parler. Il a dit, toi, viens ici. J'ai fait comme si je ne l'entendais pas. Il m'a chifflé. Il a dit, je t'appelle, tu ne viens pas. Il m'a tiré. Mon fils, il a commencé à pleurer carrément. Quand il a commencé à pleurer, tout, ça m'a vraiment fait mal. Et je me suis dit, pourquoi tout ça m'arrive en même temps? Arrivé dans la chambre, je lui ai dit, s'il te plaît, tu vois, mon fils, il pleure. Et il ne m'a même pas écouté. Il a couché avec moi. J'étais là, je n'ai pas bougé, j'étais raide. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Je n'ai pas crié, je n'ai rien fait. Je suis restée comme ça. Et maintenant, après, quand il a fini, il a vu que je pleurais et il m'a demandé pardon. J'ai dit, bon, s'il te plaît, laisse-nous partir. J'ai dit, toi, tu es gentil, toi, moi, tu peux nous laisser partir. J'ai essayé de lui parler calmement pour essayer de le convaincre. Il a dit que lui, il ne peut pas. Quand je suis ressortie de la chambre, je suis partie à côté de la maman là. Elle aussi, il y a un qui voulait la prendre et coucher avec elle. C'est une maman, hein. Mais celui qui a eu des rapports avec moi, lui, il a dit à son ami, il dit non, laisse-la. Parce que celle-là, elle peut être même ta mère. Donc, laisse-la. Après, le même gars, il s'est retourné vers moi. Il a voulu, moi, me toucher. Et le gars lui a dit, mais laisse-les. Elles vont se reposer depuis le matin. Laisse-les, elles vont dormir. Laisse-les, elles vont dormir. Et le gars, lui, il ne voulait pas vraiment. Il voulait coucher avec moi, forcé. Donc, ils ont commencé à s'engueuler entre eux. On a commencé à pleurer. On a fait du bruit. L'enfant, la dame aussi, son enfant, c'était une fille. Elle s'est mise à pleurer. Mon fils aussi, tout le monde. Donc, on a commencé à pleurer. Il a appelé, il a dit directement que nous, on fait trop de bruit et que ça va leur créer des problèmes. C'est comme ça. Ils ont envoyé un taxi. Il a dit, le taxi est venu, que vous allez partir. Donc, pendant ce temps, celui chez qui ça m'inquiétait, il avait déjà pu parler avec le chef là, lui, pour régler l'argent. Et c'est comme ça, ils nous ont libérés. Dans le taxi, on a demandé au taximètre où on va. Lui, il ne comprend pas, nous aussi, on ne le comprend pas. Mais tout ce qu'il a trouvé à dire, il a dit, pas de problème, pas de problème. On n'était pas rassurés parce que quand un Libyen te dit pas de problème, c'est qu'il y a problème. On est arrivé là où il devait nous déposer. Et quand j'ai vu sa maquille, je dis aux autres filles, j'ai dit vraiment, il n'y a pas de problème. Et lui, chez qui sa maquille était, et je l'ai retrouvé, il a dit, ici, ce n'est pas la vie. Et la Libye, si tu ne tombes pas sur bonne personne, tu vas rester là même 3 ans, 4 ans, 5 ans à tourner. Comme ça, le Libyen, il nous a proposé de partir en Europe parce qu'il a trouvé qu'on ne pouvait pas être bien ici, en Libye. Donc, il a proposé qu'on puisse aller en Europe parce qu'ils ont des relations. Ils savent qui fait partie les gens sur l'eau. Il a dit qu'on va s'apprêter, il va nous faire partie. Maintenant, moi, je cachais toujours l'argent qu'on a pris en Algérie, du travail qu'il a eu sur moi. Ils ont demandé, héros. Ce matin, il a dit, on a seulement 200 euros. Sinon, il a dit d'accord, ça m'a qu'il n'a qu'à donner, ils vont nous faire voyager. On était près de 105 personnes dans un zodiac de... Ça valait même pas 10 mètres. Et c'est comme ça qu'on a fait la route pour aller en Italie.
Comme moi, j'étais marin pêcheur, je ne peux pas vivre comme je veux. Je ne peux pas faire une maison, par exemple. Je ne peux pas faire une belle voiture. Je ne peux pas vivre bien comme il faut. Tu ne gagnes pas beaucoup et je sais, tu vas manger, tu vas dormir, tu vas faire tout ça. Mais ça, même les animaux, ils mangent, ils dorment. À la fin de mois, il n'y a rien. Ce n'est pas une vie. Par exemple, mon père a construit une maison. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, j'ai grandi avec mes parents à la maison jusqu'à l'âge de 26 ans. Parce que la maison de mon père est un peu grande, deuxième étage, alors chacun prend une chambre. Le mari de ma tante, quand il vient en Algérie, lui, il était était grand et moi j'étais gamin. Et un jour à la maison, je lui ai dit, tonton Ben Yassine, je veux aller en Europe. Il me dit, ah, Abdel, tu ne peux pas aller en Europe comme ça. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, il faut un magasin ou beaucoup d'argent pour aller là-bas. J'ai dit, mais pourquoi toi aussi, quand tu es parti en France, tu avais un magasin? Il me dit, non. Abdel, il ne faut pas traverser la mer. Si tu veux aller en Europe, va prendre un visa. Il ne faut pas penser à ça parce que tu ne vas jamais aller là-bas. Moi, je vais toujours penser contraire à toi. Je vais aller en Europe. Je peux aller en Europe. Et je suis là. J'ai pensé pour vivre ici en France, même quand j'étais gamin.
يا البحر العمق مات فيك بزاف الناس شابات وشبان صبيات وصبيان يا البحر العمق
Des fois il y a un rêve, il y a un regard. Des fois on voit et des fois on écoute. Et moi dans le rêve, je vois les montagnes et je vois qu'en quoi je vais traverser la mer. Je me sens qu'en quoi c'est un pays qui n'est pas musulman, ça veut dire que c'est l'Europe. Pourquoi c'est l'Espagne, ou la France, ou l'Italie, c'est comme ça. Et quand j'ai réveillé, j'ai dégoûté, je crois que je suis en Europe et moi je suis encore en
Algérie.
Aidé à la mer, tu as beaucoup de profondeur et tu as pris beaucoup de personnes. Des jeunes hommes et des jeunes filles, des hommes et des femmes, et des garçons et des filles à la mer. Quand j'ai arrêté le travail, moi je connais quelqu'un qui a déjà traversé la Méditerranée, il est retourné en Algérie, et là il m'a dit, si tu veux aller, il faut payer 1000 euros. Le jour qu'on a pris le bateau pour venir ici, il n'y avait personne qui s'est conduire. Et moi, je l'ai dit, je connais des gens qui savent, on n'a pas payé. Ce bateau de 14 mètres. Non, ce n'est pas un Zodiac, c'est un bateau de bois avec un moteur fixé au milieu. C'est un grand bateau. On était 42 personnes sur le bateau, là, comme le sardine. Et que deux hommes algériens. Tous des, il n'y a pas de mineurs, tous des majeurs. De Binissaf, côté algérien, et Almeria, Cabo de Gata, côté d'Espagnol. Ouais, c'est de mon village jusqu'à l'Espagne. Il y a 160 kilomètres de là. C'est 16 heures, pile. Je ne suis pas content pour raconter ça à les gens, parce que peut-être il y a des gens qui prennent des idées ici. Mais quand on va écouter, il va faire comme nous. Ce n'est pas quelque chose de bien. La Méditerranée, ce n'est pas la piscine. Et nous, on a vu sur Internet, une semaine, la mer calme. Et quand on a sorti, c'est autre chose. Je n'ai pas pensé pour avoir un trou dans la coque. Et là, j'ai vu l'eau, la moitié du bateau. Et là, on a commencé lever de l'eau, depuis de l'Algérie jusqu'à l'Espagne. On n'a pas arrêté. Avant, je n'avais pas peur de la mer parce que je travaille. Mais quand tu traverses la Méditerranée, c'est pas pareil. Déjà, j'ai pas le droit. Je suis un marin-pêcheur. Je sais bien la mer, je sais nager et tout. J'ai pris ma gilet sauvetage. Il n'y a que moi qui ai ramené le gilet sauvetage. Avec le soleil, les étoiles et la lune, je peux savoir où on y va. Est-ce qu'on y va le bon chemin ou non? Moi, sans bosser, je sais aller à l'Espagne. Parce que toujours, le soleil, il monte vers la droite. Quand je suis en Algérie, toujours le soleil vient par là et descend par là. Mais même, la mer, ce n'est pas quelque chose pour rigoler. Hein. Quelqu'un qui n'a pas de peur de la mer, c'est un grand menteur. La mer, il ne joue pas. Hein. Quand on a essayé pour traverser la Méditerranée, ça en 2006, novembre 2006, quand on est passé la frontière, par exemple, entre l'Algérie et l'Espagne, on a trouvé quelqu'un sur la mer avec un gilet sauvetage. Sur le ventre, parce que lui, il était comme nous dans un bateau, il a perdu la vie. Il n'a pas de chance.
Salut.
On est arrivé en Libye en fin novembre 2019. On a quitté la Libye fin juillet. La traversée de la Méditerranée, ça a été vraiment... Vous êtes là que dans un truc, on peut dire qu'il peut à tout moment se percer, qu'il peut à tout moment se renverser. Au fond, j'avais peur, mais il y a un côté de moi qui me disait que il n'y a rien à craindre. Avec tous les enfants qu'il y avait dans ce zodiaque-là, je ne pense pas que Dieu, lui, pourra nous faire échouer. Les enfants, ils pleuraient, ils étaient là parce qu'ils avaient faim. Il y avait des tout-petits là qui avaient besoin de boire, de l'eau, quoi. Mais bon, mon fils, lui, il n'a pas dérangé. J'avais des biscuits, quand je lui donne, il mange tranquillement, il dormait. Il y a un moment, on nous a dit qu'on était perdus. Du genre, la boussole ne fonctionnait plus. Et quand la boussole ne fonctionne plus, en ce moment-là, on a commencé à avoir peur. Parce que c'est comme si on tournait en rond et qu'à tout moment, les Libyens pouvaient venir nous récupérer sous l'eau et nous renvoyer en Libye. On a rencontré un bateau qui nous a donné une boussole. C'était un bateau de pêche. On s'est retrouvé dans une autre zone où on a croisé des pêcheurs. On a essayé d'approcher pour leur demander de l'aide, mais ils ont voulu percer notre zodiaque. Ils avaient des trucs en fer pointu. Quand on s'approchait, ils nous insultaient, ils parlaient, ils ont dirigé les trucs pointus là vers nous. Et tout le monde a commencé à demander au capitaine directement d'essayer de s'éloigner. Mon fils a dit, maman, tu sais, on va arriver à quel moment. Puis il m'a dit, qui veut boire de l'eau? J'ai dit, mais où est-ce que je vais trouver de l'eau pour te donner? L'eau qu'elle a là, c'est salée, je ne peux pas te donner. Peut-être 10 minutes après, comme ça, on a croisé l'autre bateau de pêche et ils nous ont donné de l'eau. On a commencé à boire. Et là, ils ont demandé s'ils devaient nous donner à manger, mais personne n'avait envie de manger. On voulait juste savoir où on était. Donc, ils nous ont fait comprendre qu'on n'était pas loin de Lampedusa. Et jusque-là, on a commencé à voir des avions au-dessus de nous. Après, on a vu des baleines. Parce que ça, ce sont des poissons qui accompagnent quand peut-être vous êtes perdus, qui vous montrent le chemin. Donc, quand nous, on a vu les baleines, tout le monde était rassuré. Donc, on se dit que là, maintenant, on est sur le vrai chemin. Et c'est comme ça, les hélicoptères ont commencé à passer. Et puis après, il y a un bateau de sauvetage qui est venu vers nous.
Quand on est parti en Espagne, on est rentré avec la marine espagnole. Même Titanic, elle n'a pas fait ça. Titanic, elle a tapé une pierre, elle est partie direct. Et là, quand j'ai descendu par terre, direct, j'ai raccroché dans un rocher. Comme quoi, je suis sur la terre, je ne suis pas sur la mer. Comme le chat. Je fais comme le chat. Et je montais sur terre. Je fais comme ça. J'ai fait un bisou à la terre. J'ai baissé ma tête. Et je fais un bisou. J'étais content. J'ai pris le téléphone direct. J'ai appelé ma soeur. Je suis en Espagne. C'est bon. Et c'est des trucs que ça va jamais partir de ma tête.
Je pense qu'on est quitté vendredi, peut-être vers 3 heures comme ça, et on est arrivé. Ils nous ont sauvés le dimanche à 18 heures. On était vraiment soulagés. Moi, je n'arrivais même pas à m'exprimer, je ne savais pas comment réagir. Parce que je me dis, mais on n'a pas été de ceux qui sont restés dans l'eau. On a réussi. Et bon, on est resté comme ça. Il y avait en tout cas la joie. Ils nous ont pris, ils nous ont envoyés dans un autre coin où on a pu se coucher, dormir vraiment sans pourtant penser que c'est risqué. Parce qu'en Libye, quand tu dors pas en fait. Tu es couché, mais tu te dis à tout moment quelque chose pour m'arriver. Mais ce jour-là, on avait dormi vraiment comme des bébés, sans penser à rien. Et c'était très bien.
Un jour, j'ai parlé avec ma soeur, je lui ai dit, je suis en Espagne, mais il ne faut pas dire à maman. Tu dis, je suis en Algérie, mais je travaille loin, par exemple, dans un autre port, par exemple. Je lui ai dit, moi, je vais aller une semaine, deux semaines. S'il n'y a pas de travail, je reviens. Ouais, voilà. Et c'est pour ça, moi, je n'ai pas parlé avec ma mère, je n'ai pas parlé avec mon père, par exemple. Un ami à moi, il était en Espagne avec moi. Et lui, il appelle sa mère. Il parle avec sa mère, je suis en Espagne. Abdelkader, il est avec moi et tout, et tout. Ma mère, elle a dit à la voisine, il est où ton fils? Et la voisine, elle a répété, elle dit, il est avec ton fils en Espagne. Et là, elle m'a commencé à parler mal. Pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu caches? Moi que je t'ai ramené à la vie, tu me caches? Ben, ça fait presque 14 ans en plus, depuis 2006, que je suis venu ici en Europe. J'ai pas vu mes parents. Et c'est ça. J'ai pas le choix.
Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Cher pays est un épisode en deux volets. Dans deux semaines, retrouvez Fanta et Abdelkader qui poursuivent le récit de leur périple en France, leur pays d'accueil, et nous en racontent le meilleur et le pire. Si vous aimez nos lettres sonores, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Tous nos épisodes sont en écoute sur vos applis de podcast. Et pour n'en rater aucun, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans le texte de cet épisode. À bientôt !